Je vois que tout le monde suit bien les consignes et vient immédiatement en silence à sa place. Merci. Je crois que cette disposition morale et extérieure est nécessaire. Elle vous paraît peut-être rigoureuse, mais elle vous aidera à justement essayer de capter, recevoir tout ce que nous essaierons de vous dire pendant ce congrès. Nous vous l'avons dit ce matin, plus nous étudions Lourdes, plus il nous semble que nous sommes, que nous ne connaissons pas Lourdes. Nous avons fait, je ferai référence au carillon de l'Immaculée, nous avons fait un certain nombre de remarques sur Lourdes. À Lourdes, Notre-Dame a parlé 12 fois, 12 fois officiellement, et probablement donc selon les études qui ont été faites, d'autres fois elle a fait quelques remarques à Sainte Bernadette. Nous n'avons retenu officiellement que 12 paroles. Mais ces 12 paroles sont admirablement rangées. Nous allons dire qu'il y a un principe d'ordre. Nous les avons étudiés au fur et à mesure dans le carillon, vous en trouverez des détails. Pourquoi Notre-Dame demande une église, une chapelle? Sainte Bernadette allait voir le curé Peyramal et lui demander une toute petite chapelle. Et le curé Peyramal de lui répondre, elle ne sera pas petite, cette chapelle, seulement si elle prouve qui elle est. Elle demandait une procession. Pourquoi une procession? Pourquoi la Sainte Vierge demande-t-elle une procession? Et que doit-on faire pendant ces processions? Elle demandait la pénitence. Même les 3 premières paroles du 18 février, lorsque elle invite Sainte Bernadette à ne pas écrire ce que j'ai à vous dire, il n'est pas nécessaire de l'écrire. Et puis cette 2e parole, « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici 15 jours de suite ?» Ou alors la 3e, « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. » Ces 3 paroles, je crois pouvoir dire, sont admirablement rangées dans l'ordre. Il y a une progression. La première écarte les obstacles. La seconde est une incitation de la volonté, comme vous, comme ce que nous avons fait jusqu'à présent. Nous avons excité votre volonté, vous encourageant à suivre une certaine discipline. Vous l'avez accepté, alors votre esprit sera plus ouvert à un enseignement supérieur. Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse, heureux ici-bas, mais dans l'autre. C'est quelque chose d'admirable. Nous nous sommes appuyés pour essayer de dégager quelque chose de plus que ce qui apparaissait dans ces paroles sur la liturgie. Nous avons remarqué que même ces paroles sont calquées sur la liturgie. Il y a dans la série des 15 jours, des 13 apparitions de la quinzaine, il y a une progression admirable. D'abord la pénitence, d'abord donc la voie purgative, ensuite une voie illuminative en quelque sorte, qui amènera logiquement, s'il y a docilité, eh bien à une voie unitive. Sainte Bernadette n'étant pas la moindre de nos saintes. Mais ce n'est pas ce sur quoi je voudrais vous entretenir ce soir. Nous aborderons, puisque je me permettrai d'introduire chacun des conférenciers, et chacune de ces conférences illustrera un des aspects de telle ou telle phrase. ou telle position ou attitude de Notre-Dame. Ce qui m'intéresse dans ce congrès et de vous expliquer, c'est qu'il est important que nous soyons, puisque nous sommes français, avec un certain esprit critique, que ce que le ciel nous a donné, nous devons en quelque sorte lui demander quelques preuves. Comme le curé Père Amal qui, voyant Sainte Bernadette s'adresser à lui, eh bien, lui demande le nom de cette dame, qu'elle donne son nom et qu'elle prouve que son nom lui appartienne. Et si réellement ce nom lui appartient, alors nous ferons ce qu'elle veut. Mais si elle ne le prouve pas, eh bien, elle n'a qu'à se dispenser d'envoyer des messagères à la cure. Cette phrase est très importante. D'abord, elle est de l'autorité légitime du curé. Mais le curé ou nos âmes, nous avons besoin de savoir, d'avoir des confirmations du ciel sur, eh bien, telle ou telle apparition. Ce que je veux dire, c'est que le ciel n'a pas le droit de dire quelque chose qui serait contraire à la théologie ou à la liturgie ou à l'Écriture sainte. Il y a une apparition qui, à un moment donné, ferait dire à Notre-Dame « Vous êtes, vous, fidèle, victime de la désinformation ?» Mais sachez que notre Seigneur Jésus-Christ a été lui-même victime de la désinformation. Notre Seigneur ne peut pas être victime de la désinformation. Ça a été le thème de notre seconde station du chemin de croix, lorsque nous voyons notre Seigneur épouser cette croix, désirer cette croix, parce que de par sa science divine, il connaissait, comme le dit le catéchisme, il voit tout ensemble, le passé, le présent et l'avenir, jusqu'à nos plus secrètes pensées. De par la science des bienheureux, ou sa science infuse, ou sa science acquise, notre Seigneur avait une parfaite connaissance des choses, de la psychologie humaine, et il savait très bien quelle serait l'issue de ce procès. Donc la Sainte Vierge ne peut pas dire que notre Seigneur a été victime de la désinformation, parce que cela est contraire à la théologie. Et donc si ça n'est pas la Sainte Vierge, alors c'est le démon. Ou alors c'est quelqu'un qui abuse les fidèles. Cette étude critique nous a poussé à Lourdes à étudier, à se poser un certain nombre de questions. Et des questions, il y en a. Pourquoi Notre-Dame est-elle venue à Lourdes? Vous verrez dans un des carillons, un de nos premiers. Elle est venue à Lourdes à cause du château de Lourdes, à cause de l'histoire de Lourdes, à cause du chef Mira, musulman, qui se convertit à Notre-Dame du Puy. Cette consécration, cette conversion à Notre-Dame du Puy sera renouvelée en 1060 et quelques par Bertrand Ier. Notre-Dame, nous l'avons intitulée, cela est reconnu par tous les auteurs, et la comtesse de Lourdes. En venant à Lourdes, elle vient sur son territoire, elle vient sur ses terres, demander à la France, nous l'avons dit ce matin, eh bien, sa conversion, que la France soit réellement cette terre mariale. Il y a des questions que nous nous sommes posées. Pourquoi Notre-Dame apparaît-elle à Lourdes debout? Question, vous me direz, secondaire. Nous y avons répondu avec saint Thomas d'Aquin, Être debout est celui du soldat ou de celui qui aide. Être assis est l'attitude de celui qui juge. Et nous concluons qu'à Lourdes, elle n'est pas venue juger, mais nous aider. Et en plus, elle est venue comme une combattante. Cela est très important de se poser ce genre de questions. Nous avons abordé donc ces différentes paroles de Notre-Dame. Vous pourrez voir et acheter les différents carillons de l'Immaculée. Et puis il y a ces dates. Pourquoi Notre-Dame apparaît-elle un 11 février? Pourquoi le 11 février? Pourquoi pas le 12? Pourquoi pas le 13? Pourquoi pas, je ne sais pas, un dimanche, ou un mardi, ou un lundi? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que Notre-Dame viendra selon des caprices, selon le fruit du hasard? Je crois me souvenir qu'il y a une apparition qui disait « Ah, je viendrai le 1er, le 14 », mais de fait, elle vient ou elle ne vient pas le 1er et le 14, et elle vient d'autres jours. J'avoue que cela défie la logique, où elle dit qu'elle vient, où elle dit qu'elle ne vient pas. Et si elle ne sait pas ce qu'elle dit, alors je ne comprends pas. Cela ne peut pas être la Sainte Vierge, parce que le ciel ne se trompe pas. C'est ce que nous disons dans notre acte de foi. En Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous enseignez et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Alors donc, pourquoi Notre-Dame apparaît-elle un 11 février, un 14 février? Nous la voyons apparaître le 16 juillet, le jour de la fête du Mont Carmel, et à ce titre, nous pouvons dire que Notre-Dame, eh bien, s'associe à toutes, ne fait qu'un avec la doctrine du Mont Carmel. Et donc, à ce titre, M. l'abbé Lamaran nous développera ce que c'est que cette doctrine de Notre-Dame du Mont Carmel, cette arme qu'est le scapulaire. Si elle apparaît ce jour-là, cela veut dire quelque chose. Nous devons essayer de décrypter, en quelque sorte, ce que Notre-Dame veut nous dire. Elle apparaît le 25 mars pour dire son nom. Je suis l'Immaculée Conception. Là aussi, c'est une date tout à fait symptomatique. Le jour de l'incarnation, le jour de l'Annonciation, le jour où notre Seigneur deviendra le souverain prêtre de par l'union hypostatique qui vient de se réaliser dans le sein de Notre-Dame, l'union de la nature divine à la nature humaine qui le constitue, qui loint prêtre. Cela est très important. Et c'est de par et c'est pour cette union hypostatique qu'elle a été de fait préservée de ce privilège incomparable de l'Immaculée Conception. C'est là, elle dira son nom, donc « Je suis l'Immaculée Conception » le 25 mars. Elle apparaîtra un 7 avril. Pourquoi le 7 avril? Pourquoi pas le 8? Pourquoi pas le 9? Pourquoi pas en plein temps liturgique de la Passion? Vous avez à l'entrée du congrès ce tableau en couleur des convenances à Lourdes de l'histoire du mystère de l'Immaculée Conception avec la divine liturgie. Pourquoi n'apparaît-elle pas le vendredi saint? Notre-Dame, nous arrivons donc à la conclusion, Notre-Dame devait-elle apparaître pendant tel temps et devait-elle ne pas apparaître pendant tel autre temps liturgique? Nous partons du principe, bien sûr, que vous connaissez votre liturgie. Il y a d'abord l'Avent, Noël, l'Épiphanie, et puis ensuite la Septuagésime, la sexa, la quinquagésime, tout le carême, la passion, et puis le temps de la résurrection. Le 7 avril tombe au moment de la résurrection. Nous pourrions imaginer, et je crois que si ce que nous avançons est juste, nous pourrions imaginer que cette apparition du 7 avril, après la résurrection, est à mettre sur le même pied d'égalité, d'une certaine manière, que la résurrection elle-même, Notre-Dame ayant d'abord préparé l'âme de Bernadette, vient la récompenser, vient l'armer, vient la consoler, comme le dit si bien saint Ignace de Loyola dans sa quatrième semaine où Notre-Dame se fait l'office de consolateur. Et elle viendra nous donner, nous le dirons à la conférence du Père Marie-Dominique, cette arme du rosaire. Alors, quelles sont, voilà des dates que je vous ai données, le 7 avril, le 25 mars, le 16 juillet, ce sont des dates importantes, selon les dates du 25 mars et puis du 16 juillet, ce sont des dates évidentes en quelque sorte. Mais pourquoi le 11 février ? Beaucoup, je vous le disais ce matin, se sont posé cette question. Pourquoi telle ou telle date? Henri Lasserre a regardé le sanctoral, a regardé son missel. Il a remarqué quelques concordances. Mais il faut aller plus loin. Henri Lasserre n'était pas prêtre. C'était un laïc qui suivait sa messe certainement pieusement et qui ne lisait pas le bréviaire. Or, au temps de la Septuagésime, le premier dimanche de la Septuagésime, le premier dimanche où nous commençons la liturgie en violet, l'Église nous demande, nous fait lire la Genèse. Et dans la semaine qui suit le dimanche de la Septuagésime, nous lisons la création et puis, deux ou trois jours après, le péché originel et la punition d'Adam et Ève. Et il y aura donc le mardi ou mercredi de cette semaine, première semaine, ce fameux verset du protévangile. Je mettrai une inimitié entre toi et le ciel, et entre toi et le serpent. Elle t'écrasera. Alors le Seigneur dit au serpent, parce que tu as fait cela, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta race et la sienne. Elle te brisera la tête, et tu tâcheras de la mordre par le talon. Monsieur l'abbé Duchalard nous expliquera comment cette phrase, qui jusqu'à présent n'a jamais été contestée, eh bien l'est aujourd'hui d'une manière absolument indigne. Mais cette phrase, eh bien, est comme ces deux étendards, ces deux cités. Il s'agit bien d'une femme et de la race d'une femme. Tout le monde voit, les exégètes. Je citerai le père Filion dans sa Bible qui nous dit officiellement qu'il s'agit là, bien sûr, de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi de sa très sainte mère. Notre-Dame ne va pas apparaître ce jour-là, elle va apparaître 10 jours après. Alors, dans la Bible, dans la Genèse, on va voir la punition d'Adam et Ève, et puis le déluge. Et au moment du déluge, Noé va construire une arche. Il monte dans cette arche. Cette histoire que je vous raconte est racontée dans les vitraux majeurs de la basilique de l'Immaculée Conception. Vitraux au-dessus de l'orgue, tout à fait en haut. Et on voit le premier vitrail, le protévangile, Dieu qui chasse Adam et Ève, et un médaillon avec l'Immaculée Conception. Moïse sort de l'arche. Il cultive un peu de vigne et est surpris par l'alcool de ce premier vin. Il tombe dans une ivresse inattendue. Cam se moque de son père. Sem et Japhet couvrent la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveille, il va maudire Cam, il va bénir Sem et Japhet. Cette bénédiction de Sem et Japhet, là encore, tous les auteurs, tous les exégètes ont vu la première réalisation du protévangile. La première réalisation, la première concrétisation de ce protévangile, de cette prophétie, qu'il y aura, eh bien, un sauveur, qu'il y aura une race qui sera opposée aux démons. Or, cette bénédiction, Notre-Dame va apparaître à ce moment-là. Le jour même où le prêtre lira la bénédiction de Sem, Notre-Dame va apparaître. 3 jours après, c'est le 14 février. Abraham va être béni de Dieu. Je ne vous rappelle pas parce que les détails de cette bénédiction, vous le trouverez dans le carillon de l'Immaculée, sous le titre « Pourquoi ?». Et là encore, Dieu va bénir Abraham et la descendance d'Abraham. Et dans cette descendance, les auteurs, les exégètes vont voir l'application de la semen mulieris, du protévangile, la race de la femme, la race d'Abraham, la race d'Abraham, la race de Noé, de Sem. Voilà ce choix divin. Notre-Dame va apparaître ce jour-là. Pas un autre jour, ce jour-là. Elle va apparaître, troisième apparition, le 18 février. 18 février, nous lisons dans le bréviaire un autre passage très important où Abraham a eu un fils dans sa vieillesse. Sa femme a ri par 3 fois. Mais Dieu demande à Abraham d'immoler ce fils. Tu prendras ton fils et tu viendras me l'immoler sur la montagne que je te montrerai. Abraham ne comprend pas, mais nous dit l'Écriture sainte, il espère plus que toute espérance. Et alors il prend son fils Isaac, qu'il charge d'un fardeau, d'un bois, et il l'amène sur la montagne que Dieu lui a montrée. Isaac se retourne vers son père. « Mais père, où est la victime ?» Et Abraham de répondre « Dieu y pourvoira. » Mais Isaac comprend que c'est lui la victime. Alors il prépare l'autel qui servira à l'immolation. Et Isaac se couche sur cet autel. Abraham lève le couteau et est prêt à immoler sans crainte, sans doute, son fils qui était le dépositaire des promesses. Et vous connaissez l'histoire, l'ange arrête Abraham, un bélier est coincé dans des ronces et servira au sacrifice. Or, Notre-Dame apparaît ce jour-là. C'est une des prophéties majeures dans l'Ancien Testament, car dans ce sacrifice d'Abraham, il nous est parlé d'une immolation complète à Dieu. Si je me permets, si ce que je dis est vrai, et s'il y a un réel lien entre ces 3 premières apparitions et ces prophéties, j'allais dire, que nous lisons dans la liturgie, c'est que nous devons, peut-être, c'est hypothétique, mes confrères me diront si oui ou non je me trompe, mais peut-être qu'il y a un message. Mais si ce que je dis est vrai, ce message est bien réel, Notre-Dame d'abord se tient dans cette lignée, cette race de la femme, et se présente comme la femme qui donnera la race de la femme, la descendance d'autre Christ, le Christ et d'autre Christ. Mais ces Christ sont destinés à quoi? Eh bien, à mourir, à s'immoler. Hier, pendant le chemin de croix, je vous ai lu ce texte, l'avers et le revers. Certains ne l'ont pas bien écouté parce qu'ils souffraient de leurs genoux. Mais il est très important parce que l'auteur qui l'a écrit sans dire son nom a mis en évidence, eh bien justement, toute cette soif, tout ce que je viens de vous dire. Si réellement j'ai raison dans cette comparaison entre la liturgie et les premières dates de Lourdes, alors vous devez vous immoler. Nous devons nous immoler à Lourdes. Nous devons vraiment, c'est le message de l'incarnation, de la rédemption, rédemption parfaite. Et ces visages que nous devons voir à Lourdes et ces instruments que nous devons voir à Lourdes, ce ne sont pas des ballons de baudruche, mais ce sont bien des bras en croix, des genoux à terre, des prières abondantes, des sacrifices, des visages burinés par la souffrance. Voilà donc comment décoder en quelque sorte et dire beaucoup plus que ce qui a été dit et mal dit, voire même détruit par les auteurs officiels des histoires de Lourdes. Je parle officiellement, et pour que ça soit clair, de René Laurentin, ou de Laurentin, qui a, et j'en ai parlé plusieurs fois avec des Lourdais, avec Anne Bernet, qui a écrit un livre et qui nous a écrit une introduction d'un livre que nous avons l'intention de sortir sur Lourdes. Laurentin a détruit Lourdes. Laurentin a un mépris souverain pour la tradition qu'il considère comme archaïque, comme ce mépris pour le post-tridentin et le préconciliaire. Je ne m'étendrai pas sur Laurentin, mais je vous mets en garde officiellement. Il a voulu faire de l'histoire, il n'a fait qu'une compilation. Il a interdit à toute personne d'essayer de chercher un sens beaucoup plus spirituel. Et c'est bien gardé de faire à Lourdes de la spiritualité ou de la théologie, alors que Monseigneur Théas mettait en lui toutes ses espérances en lui disant « Soyez le théologien de Lourdes ». Il a été tout le contraire. Il se dit être le spécialiste de Lourdes. J'ose dire, si je puis me permettre, qu'il ne l'est pas. Il écrira à propos de ce tableau, vous le lirez, que ces différentes dates sont, il les appelle, imprévues. Est-ce que le ciel ne va pas prévoir ces introductions, ces interventions? Je vous ai parlé donc rapidement des trois premières dates, 11, 14 et 18 février. Mais il y a le 18 février introduit à la quinzaine des apparitions où Notre-Dame, de fait, n'apparaîtra que 13 fois. Et là, je crois que tout le monde est d'accord. Il est très intéressant, d'ailleurs, de remarquer pourquoi Notre-Dame n'apparaîtra pas le lundi 22 février et le vendredi 26 février. Cela n'a pas encore fait l'objet d'un carillon de l'Immaculée, mais cela ne tardera pas. Cela est très important, parce que vous vous rendez compte que si j'ai, je dis bien si ce que nous disons est vrai, alors nous devons parler des apparitions de Notre-Dame, mais aussi nous devons parler des non-apparitions de Notre-Dame. Nous devons parler des paroles de Notre-Dame, mais aussi des silences de Notre-Dame. Vous voyez, j'espère que vous comprenez que ces si que je pose nous ouvrent des perspectives absolument merveilleuses. Elle apparaîtra donc le jeudi 18 au lendemain décembre, et cela pendant 15 jours. Et puis, à un moment donné, elle se taira, c'est-à-dire à la moitié du carême. Pourquoi devrait-elle se taire? Eh bien, parce que si ce que nous disons est vrai, eh bien, parce que son fils va bientôt mourir, va bientôt souffrir sa passion. Le dernier jour de la quinzaine tombe un 15 mars, le jeudi 4 mars, dans la semaine du deuxième dimanche de carême, mais 15 jours après, pratiquement, non, 3 semaines après, notre Seigneur subira sa passion. Notre-Dame nous introduit, si ce que nous disons est vrai, nous introduit donc au mystère de la passion. Elle lance Bernadette dans cette contemplation de notre Seigneur Jésus-Christ, de ce mystère parfait de l'incarnation, de la rédemption. Et puis après l'avoir initiée au mystère de l'incarnation, de la rédemption, alors elle laisse prendre Bernadette s'immoler avec son Rédempteur pour ne réapparaître qu'après la résurrection. Cela est très, très, très beau. Cela est très profond. Cela, nous semble-t-il, devrait être enseigné. Parce que si ce que nous disons est vrai, c'est tout l'enseignement de la liturgie, c'est tout l'enseignement de la théologie. Nous voyons à Lourdes qu'il n'y a pas de hasard et que Notre-Dame ne se permet pas de faire n'importe quoi. Mais vous me direz, Notre-Dame apparaît le 25 mars, en plein temps de la Passion. Le 25 mars sera dans la semaine du premier dimanche après du premier dimanche de la Passion. Le jeudi de la Passion. Le jeudi suivant sera le jeudi saint. Et là, c'est très intéressant. 25 mars est une fête du sanctoral. Les premières apparitions dont je vous ai parlé sont des fêtes du temporal. Notre-Dame ne devait pas apparaître en vertu du temporal, mais de par le sanctoral, elle pouvait apparaître. Et elle va apparaître le 25 mars. Elle va rompre ce silence. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre logique, non pas celle de cette ascension vers le calvaire, mais de cette glorification des saints, de cette joie immense du 25 mars, qui se terminera donc sur le calvaire. Donc vous voyez que c'est très intéressant et très important de se poser ces questions. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous arrivons aux conclusions que Notre-Dame se devait d'apparaître à certains moments, et Notre-Dame se devait de ne pas apparaître à d'autres moments. Mais si ce que nous disons est vrai, alors nous arrivons à une autre conclusion. C'est que Notre-Dame, à Lourdes, nous donne de nouveau un exemple d'humilité, d'obéissance. À qui? À Dieu, l'ordinateur suprême, celui qui a tout ordonné. celui qui a tout fait avec poids, mesure et sagesse. Cela est très beau. Il y a un acte de soumission qu'elle apprendra à Sainte Bernadette. Et Sainte Bernadette a été réellement formée, initiée dans cette voie de la sainteté par Notre-Dame. Par ces quelques jours, 18 apparitions, et Sainte Bernadette est devenue sainte. Et nous, ça fait des années que nous existons, et nous ne le sommes pas. 18 apparitions ont suffi à Sainte Bernadette, qui ne savait ni lire ni écrire, qui connaissait à peine son catéchisme suffisamment pour faire sa première communion. J'arrête là ces quelques considérations que vous lirez, que vous aurez le temps de lire, nous l'espérons, dans un livre où nous rassemblerons les quelques carillons, les éditoriaux du carillon. Le dernier carillon, nous avons voulu vous faire un tableau pour vous montrer, là aussi, certaines coïncidences du hasard. Le hasard, je le refuse. Tenez, Notre-Dame apparaît le 16 juillet, Notre-Dame du Mont-Carmel. Quelle est la promesse du 16 juillet de Notre-Dame du Mont-Carmel et du scapulaire? C'est la délivrance, le jour, le samedi, c'est l'abbé Lamrand me regarde, c'est la délivrance du purgatoire, en tout cas ce samedi est le jour de Notre-Dame. Eh bien, sachez que Madame Soubirous va mourir un samedi, pas n'importe quel samedi, un 8 décembre, le jour où, le 8 décembre, le jour de la canonisation de sa fille. Monsieur Soubirous va mourir un samedi, qui va correspondre à un samedi liturgique des apparitions. Le curé Père Amal va mourir un samedi. Pas n'importe quel samedi, ça sera le jour du 8 septembre, le jour de la Nativité de Notre-Dame. C'est quand même curieux. Monseigneur Lefebvre va mourir un 25 mars. Est-ce que c'est le hasard? Il y a comme ça, Sainte Bernadette va faire sa première communion un 3 juin. Un jeudi, c'est normal, c'est la fête Dieu, à l'hospice, juste à côté du carrefour que nous avons passé. Les sœurs de Nevers ont détruit la chapelle, il ne reste tout juste que le prie-Dieu et la statue de Notre-Dame. Ce 3 juin, vous savez quelle fête c'est? C'est la fête de Sainte Clotilde. Nous fêtons ce 15e centenaire. Et nous avons présenté ce tableau dans le carillon, le dernier, pour que vous suiviez pendant toute l'année liturgique, jour après jour, les principaux anniversaires qui se font à Lourdes ou qui devraient se faire à Lourdes. Et que vous puissiez vous unir aux différents anniversaires et fêtes de Sainte Bernadette et de Notre-Dame. Voilà, donc, rapidement, mais nous reviendrons à l'occasion des introductions de chacun de mes confrères et de leurs conférences qui iront sur différents points. Et ceux qui ne participent pas au congrès, je pense, j'essaye de vous donner mauvaise conscience, mais manqueront certainement beaucoup de choses. Je vais laisser la parole à Monseigneur Tissier de Malrée. Permettez-moi, Monseigneur, et pardonnez-moi ce que je vais vous dire maintenant, ou ce que je vais dire maintenant. Vous n'êtes pas ici parce que vous êtes Monseigneur Tissier de Malleret, vous êtes ici parce que je crois que vous étiez compétent dans la doctrine que vous allez nous enseigner. Je crois qu'il est important, cela paraît peut-être un peu original ce que je viens de dire, mais je crois qu'il est important que nous regardions le fond de la chose, la doctrine elle-même. Il y a le titre, il y a la fonction, il y a l'ordination, mais il y a aussi ce fond qu'il faut regarder fondamentalement. À Lourdes, puisque Notre-Dame a dit que je suis, qu'elle a dit son nom, je suis l'Immaculée Conception, elle n'a pas dit que 4 ans avant on l'avait définie et qu'on l'appelait l'Immaculée Conception. Elle a dit je suis l'Immaculée Conception. Il est important donc d'aborder la doctrine de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation et quelle est la place de Notre-Dame dans le mystère de l'incarnation. Cette place est considérable. Et nous le verrons demain matin avec l'abbé Cellini, parce qu'elle va situer Notre-Dame, et cela est très important, nous le verrons aussi demain matin. Pourquoi Notre-Dame dit « Je suis l'Immaculée Conception » Nous aborderons rapidement demain matin pourquoi l'artiste du vitrail de l'Immaculée Conception, de la basilique de l'Immaculée Conception, a représenté Notre-Dame d'une manière tout à fait originale. Dans quel sens Notre-Dame à Lourdes va dire « Je suis l'Immaculée Conception » Est-elle, va-t-elle confirmer la définition ou va-t-elle se réjouir? Cela est très important. Le pape devait-il être confirmé par Notre-Dame? Notre-Dame venant au secours de l'autorité papale? Cela n'est pas vrai, cela ne peut pas être vrai. En quel sens Notre-Dame dira le 25 mars « Je suis l'Immaculée Conception » Va-t-elle court-circuiter l'autorité pontificale? En aucune manière. Et cela est très important. Et nous pensons que l'artiste qui a composé les différents vitraux, les vitraux du bas de la basilique de l'Immaculée Conception, a parfaitement bien décrit ce jour du 25 mars. Où il représente Notre-Dame toute joyeuse, alors qu'elle était toute recueillie. Mais nous réaborderons cette question du vitrail, qui nous permettra donc d'insister sur la nécessité de Lourdes. Seigneur, Monseigneur, si vous le bienvenez.
Ce que Monsieur l'abbé Putois m'invite à parler en premier, ce n'est pas parce que je suis ou parce que je sais, c'est en raison du thème que je dois aborder, à savoir la maternité divine de Marie. Étant donné que ce privilège est le premier de tous les privilèges de Notre-Dame et la racine de tous les autres privilèges de la Sainte Vierge, y compris l'Immaculée Conception. Pourquoi la Sainte Vierge a-t-elle été préservée du péché originel ? Est-elle immaculée dans sa conception? C'est afin qu'elle fût une digne mère de Dieu. C'est bien évident. Et l'Église enseigne cette doctrine. Marie, mère de Dieu, sa maternité divine est la racine de tous ses autres privilèges. C'est pour ça que nous en parlons en premier ce soir. Marie est mère de Dieu. Hic Taceat omnis creatura, dit saint Pierre d'Amien. Que ici, toute créature se taise. Mère de Dieu, est-ce possible qu'une créature soit mère de son créateur? Tout dans l'univers a été créé par Dieu. Et voici que Dieu naît de Marie. Dieu a créé toutes choses. Et Marie a enfanté Dieu. Lui-même, qui a tout fait, s'est fait lui-même de Marie. Est-ce que nous comprenons cela ? Ça nous dépasse concrètement. Par là même, dit saint Anselme, Dieu a refait tout ce qu'il avait fait. Une créature devient la mère de son créateur. Voilà ce que c'est que le 25 mars. Une créature devient. Elle n'était pas avant. Elle était déjà immaculée dans sa conception. Elle n'était pas encore mère de Dieu. Mais ce 25 mars, une créature devient mère de son créateur. C'est un mystère vertigineux. Une créature, c'est-à-dire le néant, le non-être, celle qui n'est pas, pratiquement. Eh bien, elle devient la mère de celui qui est par essence. Celle qui n'est pas mère de celui qui est. Une toute petite fille de chez nous, quel âge avait-elle ? Peut-être 15 ans, 16 ans, je ne sais pas, encore plus jeune, voyez-vous. Une toute petite fille de chez nous, et comme nous, qui est née dans le temps, de ses parents, Sainte Anne et Saint Joachim, nous les connaissons. Eh bien, c'est cette petite fille qui devient la mère de celui qui est dans tous les temps, l'Éternel. Recevant de Dieu, dit le cardinal de Bérulle, l'admirable pouvoir de donner un nouvel être à l'Éternel. Voyez-vous, il était Dieu et il devient homme. Il reçoit un nouvel être. Lui, l'immuable, Dieu qui ne change pas, il devient homme. Et c'est Marie qui lui donne de devenir homme. Ce dogme de la maternité divine de la Très-Sainte Vierge, c'est-à-dire cet honneur que nous devons reconnaître à Marie d'être mère de Dieu, est une vérité de tous les temps, dès le début de l'Église, dès les premiers siècles de l'Église, avant même le concile d'Éphèse qui va le proclamer comme un dogme. Avant le concile d'Éphèse, on proclamait déjà Marie comme mère de Dieu. C'est attesté et proclamé dès les premiers jours, en dépit de la difficulté que représente, bien évidemment, cette idée d'une créature mère de son créateur. C'est presque une contradiction, voyez-vous. Eh bien, nous avons des témoignages que je vais vous lire, des premiers siècles. C'est très précieux. Au premier siècle, nous avons le témoignage explicite de saint Ignace d'Antioche, évêque et martyr. Il dit ceci. Un est notre médecin, il parle de notre Seigneur Jésus-Christ, notre médecin surnaturel. Un est notre médecin, fait et non fait, chair et esprit, Dieu dans l'homme, vraie vie dans la mort, de Marie et de Dieu. Évidemment, il faut méditer cette phrase. Notre médecin, notre Seigneur Jésus-Christ, il est fait et non fait. Il est fait, il est homme, il est né un jour, il a été conçu un jour, un 25 mars justement, et non fait, puisqu'il est éternel. Vous comprenez ? Il est fait et non fait, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est chair et esprit. Il est Dieu, pur esprit, éternel, infiniment parfait. Et il devient chair. Ensuite, il est Dieu dans l'homme, si l'on peut dire. Dieu vivant dans un homme, si l'on peut dire. Il est vraie vie dans la mort. Qu'est-ce que c'est qu'un homme, sinon une créature appelée, normalement, à moins que Dieu ne la conserve spécialement, appelée à mourir, comme toute créature. comme toute créature de chair, voyez-vous. Mais alors surtout, ce qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ est de Marie et de Dieu. Alors cela, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Jésus est de Marie et de Dieu. Alors, saint Ignace d'Antioche proclame, on dirait, une égalité entre Marie et Dieu. Jésus est de Marie et de Dieu. Il ose dire cela. N'est-ce pas trop dire de Marie? Non, nous allons le voir. Ce n'est pas trop dire de Marie. Que Jésus est de Marie et de Dieu. Au deuxième siècle de l'Église, témoignage de saint Irénée, évêque de Lyon et martyr. Saint Irénée dit ceci: celui-là même qui est né de Dieu le Père, il s'agit bien de notre Seigneur Jésus-Christ, et non pas un autre, dit-il, c'est le même, celui-là, est né de la Vierge. Donc il insiste sur cette double naissance de Jésus, de Dieu le Père dans l'éternité et de Marie dans le temps. Celui-là même, le même, qui est né de Dieu le Père, est né de la Vierge. Fils de Dieu, notre Seigneur, il est à la fois le Verbe du Père et le Fils de l'homme. Mais ce sont des paroles précieuses. Je vous ai cité un texte de saint Irénée. Déjà au 1er et au 2e siècle, l'Église, sans hésiter, décerne à Marie le titre de Mère de Dieu. Mais voilà, il y a des hérétiques déjà au deuxième siècle. Paul de Samosate, c'était un évêque, hélas. Souvent les hérétiques, ce sont des clercs et même des évêques. Oui. Paul de Samosate prétend que le Verbe, la deuxième personne de la Sainte Trinité, n'a pas pu se faire chair. C'est impossible, c'est indigne de Dieu de devenir chair. Mais qu'il s'est contenté de venir habiter dans un homme de chair. Dieu vient habiter dans un homme. C'est plus raisonnable, vous diriez. Cela paraît fort rationnel. Et on lui répond, l'Église lui répond, les saints se dressent pour terrasser cette première hérétique et lui disent non, car ce ne serait pas là une génération de Dieu, mais la négation même de cette génération. Voyez-vous, cet homme ne serait pas né de Dieu. Ce serait seulement un Dieu qui vient habiter dans un homme. Il ne s'agit pas d'un homme qui serait né de Dieu. Non, lui répond la Sainte Église, une Vierge a enfanté le Verbe vivant et subsistant du Père. Ce que la Vierge a enfanté, ce qu'elle a engendré le 25 mars, n'est-ce pas? Ce qu'elle va enfanter le jour de Noël, le 25 décembre suivant, ce n'est pas un homme, un pur homme, non. C'est Dieu, la deuxième personne divine. Voilà ce que répondent les saints à cette hérétique. Paul de Samosate, une Vierge a enfanté le Verbe vivant et subsistant du Père. Un autre témoin de la foi catholique de ces premiers siècles, c'est l'empereur Julien l'Apostat, qui lui est retombé dans le paganisme. Mais par ses reproches qu'il adresse même à l'Église catholique, il témoigne de la foi de l'Église catholique. Il dit ceci: vous autres, les chrétiens, vous ne cessez d'appeler Marie Mère de Dieu. C'est tout. C'est la petite citation que je vous donne. C'est très précieux, dans la bouche de Julien l'Apostat. Vous autres, chrétiens, vous ne cessez d'appeler Marie Mère de Dieu. Et voilà, mais justement, c'est tout notre honneur et toute notre gloire à nous, chrétiens, d'appeler Marie Mère de Dieu. Et c'est toute sa tristesse éternelle à ce malheureux d'avoir refusé cette perle à la couronne de la Sainte Vierge, cette première perle de première grandeur à la couronne de la Sainte Vierge. Seulement voilà, évidemment, une créature mère du Créateur, encore une fois, ça paraît déraisonnable, ça paraît contradictoire. Et c'est là que vont achoper de nouveaux hérétiques. Et c'est là que va venir le concile d'Éphèse en 431. C'est déjà bien plus tard, voyez, au début du 5e siècle. C'est là que triomphe le bon sens des fidèles. Qu'est-ce qui se passe en 431? Encore un autre évêque, hélas, Nestorius, patriarche et évêque de Constantinople, estime qu'il est temps de mettre fin à ce vain tapage et pense que d'un seul mot, il va ramener au bon sens tout ce pauvre peuple chrétien égaré. Il faut être raisonnable, dit-il. Il ne faut pas exagérer quand on parle de Marie. Depuis quelques jours, dit-il, on nous assiège de questions frivoles. On nous demande s'il est permis de donner à la Vierge Marie le titre de Mère de Dieu ou s'il ne faut pas simplement l'appeler Mère de l'homme Jésus. Dieu, avoir une mère, dit toujours Nestorius, que je vous cite, Dieu, avoir une mère. Il faudrait donc excuser les païens quand ils donnent des mères à leur Dieu, au pluriel. Vous savez bien, en effet, que dans la mythologie païenne, les dieux ont des mères. Il fait ce rapprochement, évidemment, blasphématoire, ce Nestorius, voyez, un vrai hérétique, un fils du démon, vraiment. Non, dit-il, voulant être raisonnable, non, dit-il, excellent homme, dit-il à nous, il s'adresse à nous, Marie n'a pas enfanté Dieu, la créature n'a pas engendré son créateur, mais un homme, simplement, instrument de la divinité, un homme porte-Dieu. Voilà l'hérésie nestorienne, Nestorius. Donc, la Sainte Vierge n'est pas mère de Dieu, elle a mis au monde un pur homme qui a ensuite porté Dieu. La Sainte Vierge aurait enfanté un homme, Jésus de Nazareth, et cet homme aurait reçu après, quelques moments après, Dieu. Voilà. Dieu serait venu habiter en Jésus. Cette hérésie n'est pas nouvelle. Cette hérésie est de tous les temps. De tous les temps, il y a eu des hérétiques qui ont pensé comme cela. Et actuellement encore. Je n'ai pas besoin de vous citer tous les livres qui paraissent récemment encore sur la Sainte Vierge pour vous faire saisir que cette hérésie est encore très actuelle. Eh bien, ce sont des gens qui veulent arracher à la Sainte Vierge son plus beau diamant de sa couronne, à savoir sa maternité divine. Non. Eh bien, aussi raisonnables que paraissent les propos de Nestorius, ce sont des propos hérétiques. Voilà ce que répond la foi catholique. C'est un hérétique. Et dans la basilique d'Éphèse, en Asie mineure, où s'est réuni le concile, avec tous les évêques de la chrétienté, on va condamner solennellement Nestorius. C'est un hérétique. Et de toutes parts, fuse ce mot, cette phrase, ce titre qui désigne la Sainte Vierge comme Mère de Dieu, en grec, Théotokos, Théotokos, celle qui a engendré Dieu. Théos, c'est Dieu, Théotokos, c'est la Mère, celle qui porte, Tokos, celle qui porte en elle Dieu. Et donc, tous les pères du concile d'Éphèse, à la suite de saint Cyril d'Alexandrie, proclament la Sainte Vierge Théotokos. Et tout le peuple de la ville d'Alexandrie chante des hymnes à la Théotokos, reprenant de plus belle ce mot, n'est-ce pas, cette parole, Théotokos, loué, honoré, glorifiée soit la Mère de Dieu. Toute la journée, le peuple va se tenir aux portes de la basilique, attendant le verdict des évêques, et c'est dans la grande jubilation quand, à la suite de saint Cyril d'Alexandrie, retentit cette définition solennelle. Et je vous cite le texte même du concile d'Éphèse, qui proclame la maternité divine de la Sainte Vierge. C'est un des premiers dogmes définis solennellement par l'Église. Vous voyez, je vous cite, « Si quelqu'un refuse de confesser que l'Emmanuel est véritablement Dieu et que par conséquent la Sainte Vierge est mère de Dieu, puisqu'elle a enfanté selon la chair le Verbe de Dieu fait chair, que celui-là soit anathème, qu'il soit anathème, qu'il soit séparé de l'Église. » Je relis, parce que si quelqu'un refuse de confesser que l'Emmanuel, c'est un des noms de notre Seigneur, selon la Sainte Écriture, Dieu avec nous, Emmanuel, que l'Emmanuel est vraiment Dieu, c'est pas un homme qui est devenu Dieu, non, il est Dieu depuis le début, notre Seigneur Jésus-Christ, par l'incarnation. Si quelqu'un refuse donc de confesser que l'Emmanuel est vraiment Dieu et que par conséquent la Sainte Vierge est mère de Dieu, qu'il soit anathème. Voilà. La Sainte Vierge est mère de Dieu parce qu'elle a mis au monde, elle a conçu un être qui est Dieu, qui est le Verbe de Dieu. La Sainte Vierge n'a pas engendré ni enfanté un homme qui est devenu Dieu, non. La Sainte Vierge a engendré et enfanté un homme qui est Dieu dès le premier instant, par le mystère de l'incarnation. Mère de Dieu, tout le peuple, donc, était dans la joie de cette définition solennelle. Cette femme de chez nous, cette petite fille, nous avons dit, a donné à Dieu la vie et l'existence terrestre, bien sûr, en lui donnant sa chair et son sang. C'est la chair de Marie, c'est le sang de Marie qui est donné à Jésus. Exactement tout ce qu'une mère de la terre donne à son enfant. Et ça suffit pour faire une maman. Donner sa chair et son sang à son enfant, ça suffit pour faire une maman, n'est-ce pas? Et pourquoi refuserions-nous de reconnaître cela à Sainte Vierge? Parce qu'elle a donné à Jésus sa chair et son sang. Elle a donné sa chair et son sang à cette personne qui est la personne de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Ben oui, tout simplement. Cette femme est donc véritablement mère de Dieu. Cette créature, la Sainte Vierge, est véritablement mère de son Créateur. Elle n'est pas mère de la nature divine, bien entendu, mais elle est la mère de la personne de Jésus-Christ, qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Quand on appelle une maman, elle est la maman d'une personne, son fils. Le fils de la Sainte Vierge, c'est une personne divine, vous comprenez bien. Bien sûr, la Sainte Vierge n'a pas donné à Jésus la divinité. C'est son Père qui lui donne la divinité de toute éternité à Jésus. Mais la Sainte Vierge lui donne son humanité. Mais ça suffit pour qu'elle soit sa mère. Elle est la mère d'une personne qui est une personne divine, préexistante de toute éternité. Le Verbe de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité. Et ça suffit pour appeler la Sainte Vierge mère de Dieu. Et nous devons proclamer ce dogme. Elle est la mère de Dieu, non pas la mère d'un homme qui va devenir Dieu, comme dit Nestorius et comme disent encore les Nestoriens actuellement, mais la mère du Verbe de Dieu. Pas la mère seulement du corps, c'est pas, mais de toute la personne. Elle a engendré et enfanté une personne, comme toute maman. Cette personne est divine, donc elle est la mère de Dieu. Voilà. Oui, mère de cette personne divine qui est de toute éternité. Voilà l'explication. Je n'explique rien. Le mystère reste tout entier. Simplement, on précise en quoi la Sainte Vierge est la mère de Dieu. Parce que ce qui est né d'elle est une personne divine, voilà. Cette personne qui préexiste, donc, de toute éternité. avec le Père et le Saint-Esprit dans la Sainte Trinité, de cette personne qui, un jour, dans le temps, vient se proposer à Marie, lui demander sa chair pour qu'elle l'en revête. Voyez-vous, comment ? Eh bien, par la bouche de l'archange Gabriel, envoyé par Dieu, envoyé par le Verbe de Dieu. Voulez-vous, Marie, revêtir le Fils de Dieu de chair ? Et la Sainte Vierge va dire, fiat, qu'il me soit fait selon votre parole. Et c'est à cet instant même que le Verbe se fait chair dans le sein virginal de Marie. Vous voyez, le Verbe de Dieu a voulu demander la permission de cette petite fille, comme dit Saint-Louis Marie de Montfort. Il lui a demandé la permission de s'incarner, de devenir son fils, comme il est bon notre Seigneur, comme il est humble. Et la Vierge est mère de cette personne divine, tout comme nos mères le sont, non seulement de notre corps, mais de tout notre être. J'espère bien, n'est-ce pas? Sinon, ça ne serait pas notre mère. Voilà. Et la mère de cette personne unique, qui unit en elle deux natures distinctes, c'est clair, la nature divine et la nature humaine. Jésus a deux natures bien distinctes, la nature divine et la nature humaine, mais en une seule personne. C'est cette personne-là qui est conçue de la Vierge Marie et qui va naître de Marie le jour de Noël. Et sans crainte, par conséquent, l'Église sanctionne ces mots qui font la joie du peuple d'Éphèse. C'est pas Théotokos. En latin, Dei para, celle qui enfante Dieu. Dei para. En français, Mère de Dieu. En allemand, Gottes Geberin, celle qui porte Dieu, qui met au monde Dieu. Theotokos, Mère de Dieu, celle qui engendre, qui enfante Dieu. Mère de l'homme Dieu, même Mère du Verbe fait chair, Mère de Dieu. Grandeur incommensurable. Privilège incroyable, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, évidemment. Une créature, mère de son créateur. Oui. Et pourtant toute humble, créature. Créature, la Sainte Vierge est une créature. Ce n'est pas la rabaisser que dire cela. Elle n'est pas Dieu, elle est une créature. Ce n'est pas une quatrième personne de la Sainte Trinité, bien sûr. Elle est la première à s'avouer, je suis la servante du Seigneur. Je suis toute petite. Il ne s'agit pas de faire une déesse de notre mère, pas du tout. Elle reste une humble femme de notre race. Mais mère de Dieu, néanmoins. Voilà. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu avoir une mère? Voilà une question que nous pouvons nous poser. Le bon Dieu aurait pu venir sur la terre à l'âge adulte, sans demander à une maman de lui donner sa chair et son sang. Pourquoi Dieu a-t-il voulu avoir une mère humaine? C'est que pour être véritablement homme, ou du moins pour qu'il n'y ait aucun doute sur la vérité de sa nature humaine, Jésus a voulu avoir une vraie mère. Jésus voulait qu'il n'y ait aucun doute sur la réalité de son humanité. Il était vraiment homme. Alors il fallait que tout le monde connaisse sa maman. Et tout le monde connaissait sa maman à ce moment-là. Vous savez bien qu'à Nazareth, eh bien Marie était la mère de Jésus. Il avait une mère comme tout le monde. Il était véritablement homme, il n'y a aucun doute. Celui qui plus tard va souffrir sur la croix, ce n'est pas un fantôme. Celui qui va verser son sang, qui va mourir, qui va ressusciter, c'est un vrai homme. Et pour le prouver, il avait une mère, une vraie mère. Voilà. Pour que Jésus, en somme, fût semblable en tout à nous autres, sauf le péché, il fallait qu'il ait aussi, qu'il eût aussi comme nous, une maman. En tout semblable à nous, sauf le péché. Voilà des choses merveilleuses. Pour être un homme, il faut donc qu'il soit le fils d'une femme. Et pour être le fils de Dieu, il faut qu'il le soit d'une vierge. D'une vierge. Il ne sera pas le fils d'une femme comme les autres. Il sera le fils d'une femme qui est restée vierge. La sainte vierge. La vierge par excellence. La vierge des vierges. Donc la Vierge est une simple femme de chez nous, tout à fait d'accord, n'est-ce pas? Totalement et absolument humaine, puisqu'elle est de notre race, et l'Évangile va nous donner la généalogie de Marie, par l'intermédiaire de Saint Joseph, puisqu'ils étaient cousins, jusqu'à David, jusqu'à notre père Adam. Voyez, issue, comme nous, de la même ascendance de pécheurs. Si vous regardez dans les ancêtres de notre Seigneur, il y avait des saints, mais aussi de misérables pécheurs. Pourquoi ? Et parce qu'en elle, le Christ vient prendre notre péché. Il fallait que notre Seigneur descendît de cette race de pécheurs par sa mère virginale pour qu'il puisse prendre notre péché pour le détruire. Elle est créature comme nous, c'est vrai, mais elle est unie à Dieu par le lien le plus étroit, le plus intime qui se puisse être, celui de la chair et du sang. Une créature unie à Dieu pendant tout le temps de la gestation, où elle va porter en elle Dieu fait chair, eh bien c'est la communion de la chair et du sang. C'est ainsi. C'est un réalisme chrétien. Elle est associée, par conséquent, 9 mois durant, d'une façon la plus intime qui se puisse concevoir, à la deuxième personne de la Sainte Trinité, en restant vierge. Voilà, je vous ai fait méditer en cette petite demi-heure, bien chers amis, ce beau titre le plus grand de gloire de la Très Sainte Vierge, Mère de Dieu. Et puis nous verrons demain, eh bien, tout ce qui va découler, tous les autres privilèges qui vont découler de cette maternité divine. Je continuerai à vous parler demain de la maternité divine, tandis que mes confrères, d'autres confrères, vous parleront d'autres privilèges de la Sainte Vierge, mais tous découlent de ce premier privilège de la maternité divine. De toute éternité, Dieu a voulu se préparer une mère, pour être véritablement homme, pour pouvoir assumer le péché et sauver cette race pécheresse, la race humaine.